Bonjour chers auditeurs et auditrices. Vous êtes branchés sur La Grande Boucle, une émission consacrée au cyclisme et plus particulièrement au Tour de France. Car, comme vous savez, vous, fans de vélo, cette année, le Tour de France prendra son départ le 4 juillet à Barcelone pour terminer sur les Champs-Élysées de Paris le 26 juillet. Je vous propose une série de podcasts sur le fonctionnement, le déroulement, l'histoire des coureurs et des équipes. Hoy vamos a hablar de un ciclista que quizá no es tan mediático como otros, pero que es una figura muy respetada en el ciclismo español, Juan Antonio Flecha. Flecha nació en Argentina, pero compitió representando a España y se convirtió en uno de los mejores especialistas en las llamadas clásicas, que son carreras de solo un día, muy duras y exigentes. No como el Tour, que dura semanas, sino que en un solo día te juegas todo. Uno de sus mayores logros fue ganar una etapa en el Tour de Francia en 2003, algo que muy pocos ciclistas pueden decir. Además, destacó muchísimo en carreras súper complicadas como la Paris-Roubaix, conocida como el infierno del norte, por sus tramos de adoquines. Flecha subió varias veces al podio en este tipo de competiciones, demostrando que era uno de los mejores del mundo en este terreno. También consiguió muy buenos resultados en el Tour de Flandes, otra de las clásicas más importantes del calendario. Siempre competía contra los mejores ciclistas del mundo y nunca se rendía, aunque las condiciones fueran extremas. Pero allá de los resultados, Flecha es respetado por su carácter luchador, su constancia y su profesionalidad. Era de esos corredores que siempre daban espectáculo y lo dejaban todo en la carretera. Además, después de retirarse, ha seguido vinculado al ciclismo como comentarista, ayudando a que más gente entienda y disfrute de este deporte. En resumen, Juan Antonio Flecha es un ejemplo de esfuerzo y pasión, y por eso es una figura tan valorada dentro del ciclismo. Aujourd'hui, parlons de l'histoire du Tour de France, l'un des événements sportifs les plus connus au monde. Le Tour de France a été créé en 1903 par le journal Lotto. À l'époque, l'idée était surtout d'augmenter les ventes du journal, mais personne n'imaginait que cette course allait devenir un symbole du sport français. Au début du XXe siècle, le cyclisme était déjà populaire, mais le Tour a vraiment changé les choses. Il a permis de faire connaître les coureurs dans tout le pays et de créer des héros sportifs. Petit à petit, la compétition est devenue un événement national puis international. Pendant les deux guerres mondiales, la course a été interrompue, mais après chaque période difficile, le Tour est revenu encore plus fort. Il est devenu un symbole de résistance, d'unité et de passion pour le sport. Au fil des décennies, le Tour de France s'est modernisé avec plus de technologies, plus de médias et une audience mondiale. Aujourd'hui, il est suivi par des millions de personnes chaque année et fait partie de l'histoire et de la culture de la France. En résumé, le Tour de France n'est pas seulement une course cycliste, c'est un événement historique qui existe depuis de plus de 100 ans et qui continue d'inspirer des générations.
Pour passer une bonne journée, écoutez Planète Radio, votre radio.
Aujourd'hui, parlons de l'équipement des cyclistes professionnels actuels. Le matériel a énormément évolué ces dernières années, surtout dans des compétitions comme le Tour de France. D'abord, le vélo. Les vélos modernes sont faits en carbone, un matériau très léger et très résistant. Ils pèsent environ 7 kg, ce qui est super léger. En plus, tout est étudié pour l'aérodynamisme, c'est-à-dire pour aller plus vite avec moins de résistance au vent. Ensuite, le casque. Aujourd'hui, il est obligatoire et il est aussi pensé pour être aérodynamique. Certains modèles sont plus fermés pour mieux couper le vent, surtout quand les coureurs veulent aller très vite. Le maillot est aussi très technique. Il est fabriqué avec des tissus spéciaux qui permettent de respirer et d'évacuer la transpiration. Il est très ajusté au corps pour réduire la résistance de l'air. Les chaussures sont rigides mais légères. Elles sont fixées aux pédales grâce à un système spécial, ce qui permet de pousser mais aussi de tirer sur les pédales. Ça améliore beaucoup la performance. Les lunettes protègent les yeux contre le soleil, le vent, la pluie et les insectes. Mais elles servent aussi à améliorer la visibilité et le confort pendant la course. Enfin, pour les contre-la-montre, les cyclistes changent de vélo. Ils utilisent un vélo spécial, encore plus aérodynamique, avec un guidon différent qui permet d'avoir une position plus basse et plus efficace face au vent. En résumé, aujourd'hui, l'équipement est presque aussi important que l'entraînement. La technologie joue un rôle énorme dans la performance des cyclistes modernes.
Pour un moment de détente, écoute Planète Radio.
Aujourd'hui, parlons des équipes dans le cyclisme professionnel, par exemple dans des compétitions comme le Tour de France. Dans une équipe, il y a d'abord le leader. C'est le coureur le plus fort ou celui qui a plus de chances de gagner le classement général. Toute l'équipe travaille pour lui. Son objectif, c'est de finir avec le meilleur temps total possible. Ensuite, il y a les gregarios, comme on dit en espagnol. En français, on parle plutôt d'équipiers. Le rôle est super important. Ils protègent le leader du vent, ils vont chercher de l'eau ou de la nourriture et ils contrôlent la course. Même s'ils ne gagnent pas souvent, sans eux, le leader ne pourrait pas réussir. Il y a aussi des coureurs qui cherchent les victoires d'étape. Eux, leur objectif n'est pas forcément le classement général, mais de gagner un jour précis. Ils attaquent, prennent des risques et essayent de profiter des opportunités. Enfin, on trouve les jeunes coureurs. Souvent, ils sont là pour apprendre et gagner de l'expérience. Parfois, ils surprennent tout le monde avec de très bonnes performances. Les équipes misent beaucoup sur eux pour l'avenir. En résumé, une équipe de cyclisme, ce n'est pas juste un groupe de coureurs. C'est une vraie stratégie collective où chacun a un rôle précis. Et c'est ça qui rend ce sport encore plus intéressant. Aujourd'hui, parlons de deux étapes du Tour de France qui se déroulent à Barcelone. La première est une contre-la-montre par équipe. Dans cette étape, les coureurs d'une même équipe partent ensemble et doivent travailler collectivement pour aller le plus vite possible. Ils se relaient à l'avant pour couper le vent et garder une vitesse élevée. Le temps final dépend du groupe, donc la coordination entre les coureurs est très importante. La deuxième est une étape en ligne où tous les cyclistes partent en même temps. Dans cette étape, il peut y avoir des attaques, des échappées ou un sprint final. Le parcours passe par des endroits connus de la ville et inclut la montée de Montjuïc, une colline assez courte mais exigeante. Cette montée peut rendre la course plus difficile et offrir un beau spectacle pour les fans. Les équipes doivent bien gérer leur position et leur stratégie dans les rues de la ville. En résumé, ces deux étapes sont très différentes. La première demande surtout un grand travail d'équipe et la seconde est plus ouverte, avec plus d'attaques et d'actions pendant la course.
Pour un moment de détente, écoute Planète Radio. Joie de vivre au rendez-vous.
Aujourd'hui, parlons de quelques étapes très importantes du Tour de France 2026. Comme souvent, les étapes de montagne vont être décisives. Par exemple, les journées dans les Pyrénées sont très importantes. Ces montagnes arrivent assez tôt dans la course et elles peuvent déjà créer des grands écarts entre les favoris du classement général. Ensuite, il y a aussi les grandes étapes dans les Alpes. C'est souvent là que la victoire finale se décide. Une des montées les plus célèbres reste l'Alpe d'Huez, connue pour ses 21 virages et pour l'ambiance incroyable du public toujours présent. Une autre étape très importante est le contre-la-montre individuel. Dans ce type d'épreuve, les coureurs partent seuls et doivent aller le plus vite possible. C'est un moment clé parce que certains spécialistes peuvent gagner beaucoup de temps. Et bien sûr, la dernière étape se termine comme toujours à Paris, avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. C'est une étape très symbolique où le vainqueur du Tour célèbre sa victoire avec son équipe. En résumé, dans le Tour 2026, les montagnes, le contre-la-montre et la grande arrivée à Paris seront les moments les plus importants de la course. Hoy vamos a hablar de algunos de los ciclistas españoles más importantes de la historia. Primero está Miguel Indurain. Es uno de los más famosos porque ganó 5 veces seguidas el Tour de France entre 1991 y 1995. Era muy fuerte en las contrarreloj y muy constante durante toda la carrera. Otro ciclista muy conocido es Alberto Contador. Ganó varias de las grandes vueltas del ciclismo, como el Tour, el Giro de Italia y la Vuelta a España, entre 2007 y 2014. Era famoso por sus ataques en la montaña y su estilo muy ofensivo. También tenemos a Alejandro Valverde, uno de los ciclistas más completos y regulares de los últimos años. Ganó muchas carreras y fue campeón del mundo en 2018. Otro nombre histórico es Luis Ocaña, que ganó el Tour de Francia en 1973. Era conocido por su gran talento en la montaña y por sus ataques espectaculares.
c'est là-haut le sommet.
También está Federico Bahamontes, apodado el Águila de Toledo. Fue el primer español en ganar el Tour de Francia en 1959 y destacó mucho como escalador.
Il s'accroche, il lisse cette montée, mais il est encore là.
Un ciclista muy querido en España es Perico Delgado, gran ganador del Tour de Francia en 1988 y también de la Vuelta a España en 1985 y 89. Era famoso por su carácter ofensivo y su forma de correr muy valiente. Por último, Óscar Freire, uno de los mejores sprinters españoles. Ganó 3 veces el Campeonato del Mundo y muchas carreras importantes gracias a su gran velocidad al final de las etapas. En resumen, todos estos ciclistas han marcado la historia del ciclismo español con sus victorias, su talento y su forma de competir. Aujourd'hui, parlons de quelques cyclistes français très importants dans l'histoire du cyclisme. D'abord, il y a Jacques Anquetil. Il est entré dans l'histoire parce qu'il a été le premier coureur à gagner 5 fois le Tour de France, de 1957 à 1964. Il était surtout très fort dans les contre-la-montre et connu pour son style très élégant.
Anquetil maintenant peine, c'est le dernier kilomètre pour lui. C'est sa 5e victoire peut-être qu'il joue dans ce Tour de France.
Ensuite, il y a Bernard Hinault, surnommé le Blaireau. C'est l'un des plus grands cyclistes de l'histoire. Il a aussi gagné 5 Tours de France, de 1978 à 1985. Il était célèbre pour son caractère très combatif et son leadership dans la course. Un autre nom très connu est Laurent Fignon. Il a gagné le Tour de France 2 fois, en 1983 et 84. On se rappelle de lui pour son Tour de 1989, car hélas, il a perdu pour seulement quelques secondes après une course très intense.
Allez, 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 allez!
Oh, et c'est la première fois que je vois sur ce genre de parcours pour gagner!
On peut aussi parler de Richard Virenque, très populaire en France. Il était connu pour ses attaques en montagne. Il a gagné plusieurs fois le maillot du meilleur grimpeur du Tour entre 1994 et 2004.
On l'encourage, on hurle Poulidor avec tous les accents que la France a fait.
Terminons avec Raymond Poulidor, qu'on surnommait Poupou. C'est l'un des coureurs les plus appréciés par les Français. Même s'il n'a jamais gagné le Tour de France, il a souvent terminé sur le podium et les fans l'adoraient pour son courage et sa simplicité.
Au maillot jaune, premier Anquetil, deuxième à environ 15-16 secondes, Raymond Poulidor.
En résumé, ces coureurs ont marqué l'histoire du cyclisme français et ils ont fait rêver des millions de fans.
Pour un moment de détente, écoute Planète Radio.
Aujourd'hui, parlons de quelques équipes françaises qui participent au Tour de France 2026. Une des équipes les plus connues est Groupama FDJ. C'est une des équipes françaises historiques qui forme aussi beaucoup de jeunes coureurs. Elle est souvent très active pendant les étapes et essaye aussi de jouer le classement général. Une autre équipe importante est Decathlon AG2R La Mondiale. Cette équipe existe depuis longtemps dans le peloton. Elle a souvent de bons grimpeurs et essaye de gagner des étapes dans les montagnes. Il y a aussi Cofidis, une équipe française très présente dans les grandes courses. Elle participe régulièrement au Tour et elle cherche souvent des victoires d'étape avec des attaques ou des sprints. Enfin, on peut parler de Total Energy qui a reçu une invitation pour courir le Tour 2026. Cette équipe est connue pour son style offensif et pour essayer de se montrer dans les échappées pendant la course. En résumé, les équipes françaises jouent un rôle important dans la course. Elles attaquent souvent, cherchent des victoires d'étape et essayent aussi de développer de nouveaux talents.
Pour un moment de détente, écoute Planète Radio.
Aujourd'hui, nous allons parler de quelques cyclistes historiques très importants qui ont marqué l'histoire du cyclisme mondial. D'abord, il y a Eddy Merckx, considéré par beaucoup comme le plus grand cycliste de l'histoire. Il a gagné 5 fois le Tour de France et aussi beaucoup d'autres grandes courses. On l'appelait le cannibale parce qu'il voulait toujours gagner. Ensuite, on peut parler de Fausto Coppi, une grande légende du cyclisme italien. Il a gagné le Tour de France et plusieurs fois le Giro d'Italia. Il était connu pour son élégance et ses performances en montagne. Un autre cycliste très célèbre est Gino Bartali, qui a aussi gagné le Tour de France et le Giro. Sa rivalité avec Coppi est restée très célèbre dans l'histoire du cyclisme. On peut aussi citer Marco Pantani, un grimpeur spectaculaire qui a gagné le Tour de France et le Giro d'Italia en 1998. Il était très apprécié pour son style offensif dans les montagnes. Enfin, il y a Chris Froome, qui a remporté plusieurs Tours de France dans les années 2010. Il était très fort dans les étapes de montagne et aussi dans les contre-la-montre. En résumé, ces cyclistes ont marqué l'histoire du cyclisme mondial et ont contribué à rendre ce sport encore plus spectaculaire. Hoy vamos a hablar de los equipos españoles que participarán en el Tour de France 2026. El principal equipo español es el Movistar Team. Es uno de los equipos más históricos del ciclismo y suele destacar especialmente en la montaña gracias a sus escaladores. Muchas veces intenta luchar por la clasificación general o conseguir victorias de etapa. Pero, en 2026 también hay otra noticia importante. El equipo Caja Rural Seguros RGA ha sido invitado al Tour de Francia. Esta invitación es muy importante porque el Tour es la carrera más famosa del mundo. Para un equipo como Caja Rural, significa una gran oportunidad para darse a conocer, competir contra los mejores y mostrar el nivel de sus ciclistas. Además, este tipo de equipos suelen ser muy activos en carrera, intentando meterse en escapadas o luchar por alguna victoria de etapa, lo que hace la competición más interesante. En resumen, la presencia del Movistar Team y la invitación de Caja Rural demuestran que el ciclismo español sigue teniendo un papel importante en el Tour de Francia.
Pour passer une bonne journée, écoutez Planète Radio, votre radio.
Aujourd'hui, parlons d'une des plus grandes rivalités du cyclisme actuel, celle entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Ces deux coureurs se battent régulièrement pour gagner le Tour de France. Aujourd'hui, Pogacar a gagné le Tour de France trois fois, en 2020, 2021 et 2024. De son côté, Vingegaard a gagné deux fois, en 2022 et 2023. Ça montre à quel point leur domination est partagée ces dernières années. Leur rivalité est très forte, mais elle existe seulement dans la course. En dehors du vélo, ils se respectent beaucoup et gardent une bonne relation. C'est une rivalité saine, basée sur le respect et la compétition. Sur le vélo, ils ont des styles différents. Pogacar est très offensif et attaque souvent, alors que Vingegaard est plus stratégique, très fort en montagne et très régulier. En résumé, cette rivalité est l'une des plus importantes du cyclisme moderne, avec deux champions qui se poussent à être toujours meilleurs. Nous sommes arrivés à la fin de l'étape pour cette émission. Restez branchés pour d'autres podcasts sur le Tour de France et le cyclisme en général.